Bonjour, merci de nous rejoindre pour Une vie, une œuvre, aujourd'hui consacrée à l'artiste peintre Berthe Morisot, un documentaire signé par Laetitia Leguet et Nathalie Salle. Née le 14 janvier 1841 à Bourges, elle nous quitte le 2 mars 1895 à Paris. Figure majeure de l'impressionnisme, Berthe Morisot reste aujourd'hui moins connue que ses amis Monet, Degas ou Renoir. Elle avait pourtant été immédiatement reconnue comme l'une des artistes les plus novatrices du groupe. À sa table se réunissent son beau-frère, Édouard Manet, qui est le plus mondain, Edgar Degas, le plus ombrageux, Pierre-Auguste Renoir, le plus sociable, et Claude Monet, le plus indépendant du groupe. Du 18 juin au 22 septembre, en partenariat avec France Culture, le musée d'Orsay retrace le parcours exceptionnel d'une peintre qui, à rebours des usages de son temps et de son milieu, devient une figure essentielle des avant-gardes parisiennes de la fin des années 1860 jusqu'à sa mort prématurée en 1895.
Et Paul Valéry a écrit un texte pour elle. C'est à quoi j'en voulais venir, à ses yeux. Ils étaient presque trop vastes et si puissamment obscurs que Manet, dans plusieurs portraits qu'il fit d'elle, pour en fixer toute la force ténébreuse et magnétique, les a peints noirs au lieu de verdâtres qu'ils étaient. Ses pupilles s'effaçaient devant les rétines.
Vous prenez toutes les toiles des impressionnistes, vous n'avez pas ce regard de Berthe Morisot dans le balcon. Ensuite, dans ce tableau de grand deuil après la Commune de Paris, Berthe Morisot, 1872, au chapeau noir. Berthe Morisot, présence intense de Berthe Morisot.
Ah, alors là, ça devrait être par là. Voilà la fameuse lettre. Il parle du salon de 69, du bilan. Bon.
Ivroire.
Ça, c'est de Pissarro à Berthe. Ça, c'est Monet. Chère madame et amie. J'aime bien l'écriture de Monet. C'est... En fait, elle rendait souvent visite à Monet à Giverny. Ma grand-mère a continué d'ailleurs ensuite avec le fils de Monet. Elle nous a conduit plusieurs fois à Giverny. Et Julie se souvenait avec précision de tout ce qui concernait, bien sûr, tout ce que faisait sa mère. Elle nous parlait beaucoup des conférences rue Paul Valéry, justement, dans l'atelier de Berthe. Ils se réunissaient souvent une fois par semaine, quand c'était possible. Et là, elle avait donc cette activité littéraire, ranger ses toiles, tout derrière un paravent.
Ma mère me racontait les réceptions du soir chez ma grand-mère.
Julie Morisot-Manet.
Où venaient Baudelaire, Mallarmé, Charles Cros, Tevas, Puvis de Chavannes, Bosc chantait en s'accompagnant de la guitare, Chabrier jouait avec un entrain en diable et la danse macabre de Saint-Saëns. Ma tante Suzanne Manet avait une interprétation tout à elle de Chopin. Quant à Édouard Manet, mon oncle Édouard, ainsi que je l'appelais, son esprit d'à-propos était étincelant. Ce gai, ce blond Manet, dont la grâce émanait, citait Mallarmé d'après Baudelaire.
Julie Manet, et qui ensuite s'est appelée Roire, puisqu'elle a épousé le frère de mon grand-père.
Jean-Marie Roire.
Donc, Julie parlait beaucoup de sa mère, elle parlait de Renoir, beaucoup, qui avait été très lié avec Berthe Morisot, et qui avait fait son portrait, c'est le fameux portrait de Julie au chat, et puis beaucoup d'autres portraits avec sa mère, et elle parlait de Degas, qu'elle appelait Monsieur Degas.
Berthe Morisot, un atelier à soi.
Et donc chez elle, c'était extraordinaire, c'était rue de Villejuste, puis rue Paul Valéry, puisque Paul Valéry avait eu l'appartement qui était juste en dessous du ciel, était au quatrième étage. C'était un appartement couvert de toiles, à la fois de Manet, il y avait 13 Manet, et bien sûr des Berthe Morisot, mais aussi des instruments de musique de Chardin, et bien entendu des Degas. Et un jour, il y avait, je me souviens encore, près de la fenêtre, il y avait un dessert à pain. Et au-dessus de la dessert à pain, il y avait deux tableaux. Il y avait le portrait de Berthe Morisot avec le grand chapeau noir. Et à côté, la Bruno Sanu de Manet, qui a attiré mes regards. Parce que je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, mais il y avait une poitrine vraiment très affriolante. Et bien entendu, on était des garnements avec mon cousin Yves. Et on envoyait des fléchettes absolument partout. On crevait les tableaux. C'était des barbares, des vrais barbares. Et un jour, il y a eu, dans toutes les familles, un anniversaire. On a ouvert le bouteille de champagne. Et le bouchon est parti directement sur le Manet et a crevé le Manet. D'ailleurs, on peut encore voir à Orsay, discrètement, vous regardez, vous vous penchez. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une boursouflure dans le corsage. C'est le bouchon de champagne qui a été restauré.
Berthe, j'ai fini une série de toiles autour des batailles napoléoniennes. J'aimerais faire votre portrait.
Mais je veux bien. Mais une condition. Que vous me représentiez en général de division.
Ne soyez pas cruel, Berthe.
Berthe Morisot n'était pas du tout programmée pour devenir une artiste, parce qu'elle est née dans un milieu bourgeois, elle est fille d'un ancien préfet qui était devenu un haut fonctionnaire à la Cour des comptes. Les jeunes filles, à cette époque-là, au XIXe siècle, les jeunes filles qui étaient nées dans la bourgeoisie, ne travaillaient pas. Et on leur donnait en effet des leçons de peinture, mais la peinture devait être pour elles, au fond, un passe-temps pour occuper des heures creuses. De même que le piano, c'était la même chose, on apprenait le piano, mais pas du tout pour être pianiste. Donc pour Berthe, l'apprentissage de la peinture était tout de suite une révélation. Elle s'est montrée pas seulement douée, mais intéressée par cet art. Elle a développé des qualités de dessin, ensuite des qualités de couleur, avec d'excellents professeurs, qui ont été d'abord un vieux professeur qui s'appelait Chocarne, un petit peu ennuyeux, mais elle a résisté à cet ennui. Elle a eu ensuite un excellent peintre lyonnais qui habitait dans son quartier, qui s'appelait Guichard, et qui lui a immédiatement décelé les qualités de Berthe Morisot. Et pas seulement d'ailleurs de Berthe, mais aussi de sa sœur Edma, car les Morisot étaient trois sœurs, et l'aînée n'a pas du tout été intéressée par la peinture, elle s'appelait Yves, mais Edma et Berthe ont eu cette vocation de la peinture.
Berthe Morisot se passionne pour le plein air. Et c'est véritablement ce qui définit les passions de cette jeune génération d'artistes qui naît en 1840 et qu'on appellera bientôt les impressionnistes. Et donc, en ce sens, elle est vraiment pleinement dans son temps et à la recherche d'une peinture qui rompt avec les codes de l'académisme et les codes du salon. Alors, on va vers Corot aussi parce qu'on n'est pas admis ailleurs et notamment les femmes n'ont pas accès à une formation artistique classique. L'école des beaux-arts leur est fermée jusqu'en 1897. Il faut donc, pour recevoir une formation digne de ce nom, prendre des cours particuliers. C'est ainsi que Berthe Morisot et sa sœur Edma deviendront les élèves de Corot et iront peindre avec lui sur le motif, notamment à l'Île d'Avray, où l'artiste résidait.
Il y a de la lumière chez Corot, mais il y a aussi des ombres. C'est un peu plus sombre que ce que fera Berthe plus tard. Mais il lui apprend les nuances, et il lui apprend à représenter le ciel, l'eau, les reflets de l'eau, etc. Donc il va enseigner à Berthe les subtilités de la peinture. Et Berthe a été vraiment à une excellente école. Et ensuite, que faisait-elle? Elle allait au Louvre, comme tous les peintres de cette époque, qui apprenaient en copiant les chefs-d'œuvre. Et c'est au Louvre que tout se joue, puisque c'est là qu'elle va rencontrer beaucoup de peintres intéressants et Manet.
Nous nous trouvons devant le portrait de Berthe Morisot par Manet qui s'intitule Berthe Morisot étendue, qui est présenté au musée Marmottan-Monet. Berthe Morisot qui est représentée en buste, cheveux noirs, yeux noirs, avec un regard noir absolument intense, qui n'était pas le sien d'ailleurs. Hein. Il a noirci un petit peu ce regard, collier de chien noir, robe noire. Alors c'est le noir Manet et c'est aussi le noir Berthe Morisot. Et Berthe Morisot était connue pour ne porter que du noir. Et une touche de couleur, on ne la voit pas ici, des souliers roses. Alors Manet va capturer cette femme d'une extrême beauté et qui était admirée pour sa beauté. Et quand on présentait ses portraits par Manet au salon, on parlait de femme fatale, hein, donc cette femme qui s'est mariée qu'à l'âge de 33 ans, était extrêmement courtisée, et ce visage se détache sur un fond légèrement brun, légèrement rouge. Il est saisissant par la présence de cette femme qui nous regarde droit dans les yeux. Effectivement, il y a une charge sensuelle, amoureuse, qui est évidente dans cette œuvre. Il l'assume et la reconnaît comme étant une œuvre importante, puisqu'il la signe et il la date.
Dominique Bonnat, pour vous, quel est l'apport artistique de Manet à Berthe Morisot? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une sorte de révélation, finalement? Peut-être de révélation de la femme à elle-même et donc, du coup, de la peintre à elle-même?
Alors, de Manet à Berthe, ou de Berthe à Manet, je ne sais pas comment il faut poser la question, on est un petit peu dans l'univers du roman, c'est-à-dire de l'imagination, de la broderie romanesque, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a eu entre Manet et Berthe Morisot. On rêve bien sûr d'un amour entre eux, ce peintre qui peint quand même 11 fois Berthe Morisot, qui l'a fait venir à son atelier de la rue Guyot, puis de la rue Saint-Pétersbourg, qui est obsédé par la figure de Berthe, qui n'a de cesse d'aller chercher son secret, qui la peint dans ses robes noires, des robes de deuil, qui la transforme même quelquefois en sorcière, on dirait un Goya sous le pinceau de Manet. Mais de l'autre côté, évidemment, il y a une très jeune femme qui regarde ce grand peintre peindre. Ce qui est, je trouve, émouvant, c'est de voir que jamais Manet, à travers ses 11 représentations de Berthe, ne l'a montré avec un pinceau à la main. Il ne peint jamais la peintre, il peint la femme. Je crois que ça, c'est quand même important de le voir, alors que la peinture, c'est quand même le cœur même de la vie de Berthe. Elle peint en professionnelle. Elle a toujours tenu à ce qu'il y ait du sérieux, de la gravité, de l'effort, du travail. Toutes ces choses-là qui font partie du métier de peindre, elle les a assumées, elle les a cultivées. Seule Edma Morisot, sa sœur, a peint Berthe à son chevalet.
C'est vrai que Berthe Morisot donc a posé pour une dizaine de tableaux, de peintures de Manet, et c'est vrai que ses œuvres vont fasciner ses contemporains, puisque certains de ses tableaux, en particulier le balcon qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, est présenté au salon de 1869, et le visage de Berthe Morisot frappe. Elle a un air assez ténébreux, elle a un regard fixe. Quand on regarde ses portraits, ce qui frappe, c'est la connivence artistique, et il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque, et il faut voir que quand elle accepte de poser pour Manet à la fin des années 1860, Manet, c'est encore un artiste avec une réputation sulfureuse, c'est quand même l'homme d'Olympia, c'est quand même l'homme du déjeuner sur l'herbe. Il a peint en 1867 le portrait d'Émile Zola, qui est dans les collections du musée d'Orsay. Et on dit souvent que Émile Zola a accroché son portrait par Manet, qui fait notre admiration aujourd'hui, dans un grenier, et à l'écart des regards. Donc les portraits de Manet déroutaient y compris ses plus fervents soutiens, et il y avait toute une tradition de portraits refusés. Et donc quand Berthe Morisot accepte, elle s'engage vraiment dans une aventure artistique, et il y a vraiment une complicité. Elle fait des choses assez étonnantes comme modèle. Elle pose absolument pas de façon conventionnelle. Pour le balcon, elle est donc dans ce tableau qui est une sorte de portrait collectif. Elle a un regard très absent, elle est un petit peu fantomatique. Quand elle pose pour un tableau qui s'appelle Le Repos, qui est montré en 1873, le public qui voit le tableau la trouve neurasthénique. Elle est un petit peu avachie sur son sofa, donc elle ne se tient pas convenablement pour une femme de son milieu. Il y a des portraits où elle se cache derrière un éventail, elle est presque défigurée dans un autre derrière une voilette. Enfin, il y a vraiment une complicité. Ce ne sont des portraits qui ne sont possibles qu'entre artistes qui se comprennent. Moi, je vois vraiment cet ensemble de portraits comme une co-création, en quelque sorte, ou du moins comme une création de Manet qui n'est rendue possible que par une vraie conversation, un vrai échange avec un modèle qui comprend ce qu'il va faire. Et c'est une confiance énorme puisqu'elle accepte que certains de ses portraits soient montrés publiquement, soient vendus. Et elle va d'ailleurs essayer elle-même de racheter certains des portraits d'elle que Manet a fait et qu'il avait vendus.
Voilà. Alors pour remercier Berthe d'avoir posé, comme il ne pouvait pas lui offrir le tableau qui était vendu à un Américain, je ne sais plus qui. Bref, il m'a envoyé la photo en signant son portrait d'ailleurs qui est assez étonnant parce qu'on voit Berthe le repos. Enfin, c'est là où on sent qu'il y avait entre eux quand même une certaine atmosphère, si je puis dire. Donc, je ne dis pas plus, sinon ma grand-mère se retournerait dans ça.
Et je pense qu'il y a eu, à l'évidence, une attirance de Manet pour Berthe Morisot, pour sa beauté, parce que c'est une femme très belle, et pour sa forme d'intelligence, bon, pour sa passion de l'art. Et en même temps, je me demande si Manet, qui était un homme très, très profond, hein, un très grand artiste, en même temps très léger. Donc même s'il a été tenté, peut-être, d'avoir une liaison avec elle, les conséquences que ça a pu entraîner, et de l'épouser, mais l'épouser, c'était épouser quelqu'un d'intransigeant, alors que lui voulait mener sa vie de bâton de chaise. Et grâce à sa femme, son épouse, la mère de Léon Lenoff, Suzanne Lenoff, eh bien, elle lui laissait une paix royale. Il draguait autant qu'il pouvait, parce qu'il faut bien l'admettre, c'est un dragueur. Je crois qu'il avait compris qu'il fallait qu'ils s'aiment à distance, et c'est ce qu'ils ont fait, parce que finalement, ils ont eu certainement une relation, une attraction l'un pour l'autre. Sinon, c'est difficile, je crois qu'il y a 10 tableaux de Manet qui représentent Berthe.
Mai 1869, lettre de Berthe Morisot à sa sœur Emma Pontillon. Tu comprends qu'un de mes premiers soins au salon a été de me diriger vers la salle M. J'y ai trouvé Manet, le chapeau sur la tête, en soleil, l'air ahuri, il m'a prié d'aller voir sa peinture parce qu'il n'osait s'avancer. Jamais je n'ai vu une physionomie si expressive. Il riait avec un air inquiet, assurant tout à la fois que son tableau était très mauvais et qu'il avait beaucoup de succès. Je lui trouve décidément une charmante nature qui me plaît infiniment. Ses peintures produisent comme toujours l'impression d'un fruit sauvage ou même un peu vert. Elles sont loin de me déplaire. Le grand Basile a fait une chose que je trouve fort bien. C'est une petite fille, à l'ombre d'un arbre. Il cherche ce que nous avons si souvent cherché, mettre une figure en plein air. Cette fois, il me paraît avoir réussi.
Le tableau de Basile qu'elle admire au salon de 1869, où on voit une jeune femme dans cette lumière du sud, avec une robe rose, un paysage à l'arrière-plan. Et donc, pour la première fois, estime Berthe Morisot, un peintre place de façon convaincante une figure en extérieur, avec une lumière qui est une lumière réelle, une lumière observée. Elle a commencé, en fait, à peindre des tableaux de figures au fur et à mesure, à la fin des années 1860. Et c'est vrai qu'à partir de la fin des années 1860, elle se consacre beaucoup à ces tableaux de figures.
La tête, cette guérison va pour toi la sainte fête. Arme ton vieux fusil, arme ton vieux fusil pour combattre avec deux peuples dont choisi.
Lundi 27 février 1871. Tu as bien raison de croire, ma chère Edma, que rien ne nous sera épargné. Les Prussiens doivent entrer mercredi, et Passy est particulièrement désigné comme devant être occupé par eux. Il paraît, d'après ce que tu me dis, qu'on déteste autant Garibaldi en province qu'ici Favre, Trochu et les autres. Il me semble que les Parisiens sont plus dans le vrai que les provinciaux. Si par hasard j'avance timidement cette opinion, mon père jette les bras en l'air et me traite de folle.
La ville était sous siège pendant la guerre et puis il y avait la commune à la fin.
Manet a passé le temps du siège à changer d'uniforme. Son frère nous écrit aujourd'hui qu'il a raconté à Bordeaux une quantité de campagnes imaginaires. Monsieur Degas est toujours le même, un peu fou, mais charmant d'esprit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Paris a capitulé.
La Prusse a pris l'Alsace et la Lorraine.
C'est fini.
Les impressionnistes ont vu la guerre au début comme une guerre impériale qu'ils n'acceptaient pas.
Philippe Nord.
Mais une fois que les armées françaises ont essuyé l'échec sur les champs de bataille, à Sedan surtout, il y avait un changement de régime. Et ce changement résulta dans la chute de l'Empire et l'arrivée en scène d'un gouvernement de défense nationale qui était du côté républicain. C'était à ce moment-là que Monet a même pensé à certainement à s'engager militairement. Et aussi Frédéric Bazy, qui était déjà sous le drapeau, était enthousiasmé par ce changement de régime.
Berthe reste à Paris. La période de la Commune sera très dure pour toute la famille parce que les Parisiens ont eu faim. Pendant la Commune, il n'y avait plus rien à manger dans la ville.
Et ce qui était évident à travers ses écritures, c'était qu'elle prenait parti pour des types comme Garibaldi ou comme sa sœur l'a fait pour Léon Gambetta, qui était un ministre de la Défense nationale à la fin de la guerre de 70. Donc on commence à entrevoir dans ces échanges, la prise d'opposition politique de plus en plus franche de la part de Berthe Morisot et de sa sœur également, et aussi leur différence avec d'autres membres de leur famille, avec le frère Tiburce, qui était très opposé à la Commune et qui traitait Manet et Degas comme des communaux.
Les Versaillais vont trouver un autre moyen de rentrer dans Paris. Ça va être sanglant.
Nous défendons les droits du peuple. Cela ne peut se faire que dans le sang. N'est-ce pas, Édouard ? Oui.
Chantons la liberté, défendons la cité, marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain.
Votre mère m'a dit que vous n'aviez pas cessé de peindre.
Vous avez fait la guerre à votre façon.
Qu'une scène de la vie de tous les jours prenne des allures d'avant-garde, ça m'enchante. Manet a eu raison de vous envoyer à moi. Votre vision sur les bonheurs fugaces de la vie me touche. Elle est triste, mais stoïque. Et ce pinceau, on dirait que vous peignez avec l'air et la lumière.
Ne vous fatiguez pas. Le salon vient de le refuser. Ça ne vaut rien.
Qu'est-ce que vous croyez ? Vous pensez être la seule à essuyer un refus ? L'Académie ne veut ni de Monet, ni de Renoir, ni de Degas. Vous faites davantage confiance à une Académie de vieux grincheux pour juger votre peinture, plutôt qu'à moi, qui suis prêt à miser sur elle ?
De 1873, un groupe d'artistes mené par Pissarro, qui prend exemple d'ailleurs sur une coopérative de boulangers. Donc il crée une société anonyme coopérative des artistes, peintres, sculpteurs et graveurs, qui va organiser en 1874 une première exposition qui deviendra l'exposition des impressionnistes. Donc Berthe Morisot, elle participe à cette première exposition de 1874 à l'invitation d'Edgar Degas. Et contrairement à Renoir, à Monet, à Cézanne, même si ça ne marche pas, elle ne reviendra jamais, elle n'essaiera jamais de revenir vers les circuits officiels. Elle va toujours rester fidèle à cette stratégie de l'indépendance et à cette volonté de construire sa carrière de façon autonome, si je puis dire, en s'appuyant sur ses expositions dites impressionnistes, en essayant aussi, autant que faire se peut, de montrer ses œuvres chez des marchands. Donc elle a toujours gardé cette voie de l'indépendance. Donc c'est pour moi aussi un signe de courage et de détermination.
C'était une avant-garde, les impressionnistes. C'était des gens qui ne peignaient pas comme il fallait. On leur a beaucoup reproché. On leur disait, mais comme ils peignent mal, ils ne finissent pas leurs mouvements, ils ne finissent pas leurs dessins. Elle est allée se lier avec des refusés qui étaient refusés au salon officiel. Donc, elle a choisi son camp. Et elle a assumé cette manière de peindre impressionniste, le mot ayant été inventé avec un sens péjoratif, elle l'a parfaitement assumé, et elle a toujours continué dans cette voie.
Ça vous monte à la tête de faire partie de ce groupe de marginaux?
Alors?
Ils en parlent tous. Hier avait lieu la première exposition des indépendants. On a aimé le berceau. C'est une caresse, ce pinceau.
Et les autres?
Ces gens-là ne savent pas dessiner. On dirait des enfants qui s'amusent. Devant la toile de Monet intitulée « Impression soleil levant », je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et cet abruti de critique qui a titré sa chronique « L'exposition des impressionnistes ». Eh ben, ça restera.
Mallarmé, lui, est réceptif à l'évolution des impressionnistes. Ce qu'il dit dans son grand article sur les impressionnistes et Édouard Manet, c'est que les impressionnistes sont ceux qui ont appris aux spectateurs contemporains à voir la réalité. Ce sont des maîtres de la vision. Et Mallarmé lui-même considère que, d'une certaine façon, les impressionnistes reviennent à une perspective plus naturelle, même si elle déroute les spectateurs contemporains. Mallarmé définit les impressionnistes comme des révolutionnaires, ou plutôt, il utilise un terme qui est fortement connoté politiquement, ce sont des radicaux. Une époque où le radicalisme était perçu comme d'avant-garde et d'extrême-gauche. Donc, les impressionnistes sont des radicaux. Ce sont des radicaux, des révolutionnaires. Ils visent le tout un chacun et pas du tout une élite de spectateurs, comme la littérature doit réapprendre à lire à tout un chacun.
Berthe Morisot, elle a vraiment un rôle important dans l'impressionnisme. Elle est au cœur de l'aventure impressionniste. Elle est une artiste vraiment au sens plein. Elle travaille à égalité avec Degas, avec Renoir, avec Monet, qui l'estime, qui l'aime. Le jour de sa mort, Renoir travaille à côté de Cézanne en Provence. Il reçoit le télégramme lui annonçant la mort de Berthe. Il abandonne ses pinceaux, il oublie son chapeau et sa canne, il court à la gare pour prendre le train, être là pour l'enterrement. Et devant la tombe de Berthe, il dira « Je me sens aujourd'hui comme dans un désert ». C'est dire que cette femme avait une véritable présence. Et finalement, les artistes qui peignaient avec elle, qui ont été ses amis, se sont aussi appuyés sur elle. Il y avait une force chez Berthe Morisot.
Berthe Morisot est une artiste qui a une grande évolution, qu'on peut dire stylistique. C'est-à-dire que si on compare les peintures qu'elle va faire justement au moment où elle rencontre Manet, un peu avant les années 70, elle a encore cette palette très ambrée, très brune, très très mordorée, qui tient à la fois de Manet, mais plus encore de Fantin-Latour. Et puis, vers 1874, au moment où Berthe Morisot rejoint le groupe des impressionnistes, elle s'est essayée au plein air. Et donc, la palette de Berthe Morisot va s'éclaircir. Elle va commencer par développer des blancs argent, argentins, argentés, qui sont une signature et qui font d'elle une artiste absolument remarquable. Et puis, elle va inscrire encore quelques touches de noir. Il y a une toile qu'elle va exécuter en 1875 sur l'île de Wight lorsqu'elle est en voyage de noces. Elle représente Eugène Manet, le frère du peintre, regardant par la fenêtre. Et on voit dans cette peinture, j'allais dire, cette merveilleuse période de transition où Berthe Morisot allie les blancs argentins, des touches de bleu, de vert, qui composent des petits massifs de fleurs. Donc il y a quelque chose de très kaléidoscopique. Et puis la représentation de la structure de la fenêtre qui est ici en noir. Donc on voit bien qu'on a encore quelques touches sombres qui marquent cette période de transition.
Dominique Bonnat, l'un des moments aussi assez curieux de sa vie, c'est son mariage. Elle épouse le frère d'Edouard Manet, Eugène Manet, contre l'avis de son frère, donc aussi une marque d'indépendance qui lui dit Eugène est dilettante, paresseux, fou, et elle se marie, malgré tout.
Ce qui est curieux dans les portraits que Manet nous a laissés de Berthe, c'est que le tout dernier portrait qu'il peint d'elle, toujours en noir bien sûr, celui de 1874, la représente avec un anneau au doigt. C'est son alliance. Édouard Manet cesse de peindre Berthe quand elle épouse son frère Eugène. Avec Eugène, Berthe épouse évidemment un Manet, elle devient Madame Manet pour l'état civil, c'est comme ça que ses amis l'appelleront, Madame Manet, elle cesse d'être Berthe Morisot, sauf pour signer ses peintures. Et Eugène Manet, qui est un personnage bien moins truculent, bien moins rieur qu'Édouard Manet, beaucoup plus mélancolique, est un mari un peu fragile, qui d'ailleurs va mourir jeune, il mourra avant Berthe, mais qui est entièrement dévoué à son épouse. Donc elle va trouver dans le mariage un homme qui ne l'empêche pas de peindre, un homme qui ne veut pas la réduire à son statut de femme au foyer, comme ça a été le cas par exemple de sa sœur Edma. Edma, en se mariant, en ayant des enfants, a cessé de peindre, parce que les devoirs de la maternité l'ont éloignée de la peinture. Ça ne se passera pas pour Berthe, qui maintient le cap, qui continue à travailler et qui en cela n'est pas, je ne sais pas si elle était encouragée, mais elle n'était pas découragée par son mari, parce qu'il y a de très belles scènes que l'on peut imaginer où Eugène, les tableaux de Berthe sous le bras, les accroche lui-même dans les salles d'exposition où les gens vont venir les regarder. C'est Eugène qui accroche les tableaux de sa femme au mur. Et à partir de ce moment-là, Berthe est donc une épouse, Madame Manet, mais elle va très vite devenir une mère. Et elle aura une fille unique, qui est Julie, Julie Manet, qu'elle va représenter à l'infini dans sa peinture, et qui, selon moi, est le grand amour de la vie de Berthe.
Voilà. Portrait de Julie par Berthe. Donc, au pastel, on voit déjà que le dessin est plus travaillé. Si vous voulez, elle cherche d'abord la ressemblance, là, visiblement. Donc elle ne peut pas non plus partir dans tous les sens.
Sylvie Patry, un motif qui revient souvent dans ces scènes d'intérieur, qui est la fenêtre.
Ça, c'est un sujet qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressé chez Berthe Morisot. Quand on regarde ces tableaux, on est frappé par l'importance de ces compositions où il y a des fenêtres ou des beaux windows. On est entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est un motif aussi qui avait été beaucoup analysé par une partie de la critique féministe anglo-saxonne comme étant finalement une preuve du cantonnement auquel les femmes étaient condamnées au XIXe siècle. Bon, à la fois, effectivement, on est tout à fait d'accord sur le fait que les espaces sont très sexués au XIXe siècle et l'intérieur, l'espace domestique est plutôt du domaine du féminin et l'accès à l'espace public est limité ou du moins très codifié pour des femmes comme Berthe Morisot. Mais je trouve que quand on regarde ses peintures, ce qui frappe justement, c'est l'ambiguïté, c'est le fait qu'elle utilise ce thème de la fenêtre Pas tant pour fermer finalement les intérieurs que pour les ouvrir et pour introduire ces notions très importantes de fluidité, de lumière qui baignent la composition. Et dans certains tableaux, elle va jusqu'à inverser les rôles. Et il y a un tableau très frappant qui est absolument magnifique, qui représente son mari, Eugène, à l'île de Wight. Et là, c'est l'homme, c'est plus la femme qui est à l'intérieur, c'est l'homme qui est à l'intérieur, qui regarde à travers une fenêtre, qui dédouble en fait cet acte de voir qui est au cœur de la peinture. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde le port, mais se promène à l'extérieur une femme et un enfant. Donc elle inverse complètement les rôles traditionnels. Et puis c'est un thème, ce thème de la fenêtre, en particulier dans les années 1880, c'est un thème qui visuellement est extrêmement riche pour la peinture de Berthe Morisot et qui nous place en fait dans une sorte de toujours d'équilibre un petit peu instable, et je trouve que c'est ce qui caractérise aussi sa peinture. Elle n'est jamais dans la description, dans la suggestion, on ne sait plus qui est dehors, qui est dedans. On a des effets de remplissage à nouveau très décoratifs, de profusion du motif, des couleurs, de la touche, grâce à ces ouvertures, ces échappées visuelles sur l'extérieur. Et puis, ces fenêtres, ces beaux windows, ces vérandas, ça permet aussi de guider le regard, d'introduire des lignes de construction, d'asseoir la composition. Et puis c'est aussi un grand thème dans l'histoire de la peinture, de la fenêtre qui est une image du tableau et qui est finalement comme une métaphore aussi de l'acte de peindre, de l'acte de voir et du tableau lui-même.
Ah, alors, oui, il y a une chose, que j'aurais voulu vous montrer quand même qui était trop drôle.
Là, il y a une lettre de Berthe Morisot.
Lettre d'Edouard Manet à Berthe Morisot. Je viens d'avoir la visite, ah voilà, du terrible Pissarro. Ma chère Berthe, je viens de voir la visite du terrible Pissarro qui m'a parlé de notre exposition prochaine. Ces messieurs n'ont pas l'air de s'entendre. Gauguin, c'est Gauguin qui joue les dictateurs. Sisley, que j'ai vu aussi, semblait savoir ce que veut faire Monet.
Quant à Renoir, il n'est pas encore rentré à Paris.
Il n'est pas encore rentré à Paris. Je suis étonné que Gênes ne soit pas rappelé qu'il faisait très froid à Florence. Et ça, j'adore. Nous y avons passé 2 mois très froidement autrefois. Vous feriez bien à l'avenir de ne pas trop effrayer ma mère avec la santé de Bibi. Cela la met dans des états effrayants. Quant à moi, je me porte mieux depuis 2 jours. J'ai mis de côté la canne. Ce qui est quelque chose. Les affaires vont mal. Tous ces événements financiers ont un peu touché tout le monde et la peinture s'en ressent. Suzanne me charge de vous dire ses amitiés, à vous. Et Edouard Manet.
Bibi, c'est Julie ?
Bibi, c'est Julie, absolument. Bibi, c'est Julie. Ça va être, oh non, ça va être peu de temps avant la mort de Manet, hein.
L'une éclaire la plaine au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants?
Donc quand on regarde des œuvres plus tardives, des années 1880, comme par exemple ce merveilleux tableau La leçon au jardin de 1886, qui est conservé dans un musée américain à Denver, la touche est très énergique, elle part dans beaucoup de directions, elle met en place avec beaucoup d'autorité le motif, et on a vraiment un effet de all-over, en fait, de remplissage de la surface par ces touches colorées qui suggèrent à la fois l'herbe, la végétation, les arbres à l'arrière-plan, mais aussi les personnages qui sont très rapidement mis en place. Et donc tout se passe comme si, en fait, il y a une affirmation d'une gestualité, d'une rapidité dans l'exécution qui fait que le tableau est frais, enfin, je dirais à jamais en quelque sorte, alors qu'on sait, quand on examine soigneusement sa technique, on sait que la plupart de ses œuvres ont été peintes en plusieurs étapes en fait. Mais ce qui compte, c'est l'impression qu'elle veut donner, c'est cette impression de rapidité pour, comme elle disait, fixer quelque chose de ce qui passe en fait.
Faut-il faire de Berthe Morisot le peintre des jeunes filles en fleurs ? Faut-il résumer Berthe Morisot à une peinture très féminine qui représenterait les petites filles et les bourgeoises du 16e arrondissement? On peut se poser cette question. Mais on peut aussi se demander si, dans ces cas-là, Monet n'est pas un peintre de fleurs. Monet n'est-il pas le peintre des nymphées? C'est-à-dire que et Monet et Berthe Morisot ne sont pas directement intéressés par leur sujet, mais par la manière dont ils vont le représenter. C'est pour ça qu'on peut représenter tout au long de sa vie des nymphéas et ne jamais peindre le même tableau. Eh bien, pour Berthe Morisot, c'est la même chose. Elle ne cherche pas à faire le portrait de ses modèles, c'est-à-dire nous révéler quelque chose de leur personnalité, mais capter quelque chose de ce qui passe, c'est-à-dire la manière dont la lumière va transformer le modèle et restituer quelque chose de la brièveté et de l'instant.
Alors là, alors voilà, ça c'est le fameux tableau de bateau illuminé à Nice. C'est un bateau illuminé, c'est un tout petit format, mais traité d'une façon comme ça, à la Monet, cette eau suggérée. Il faut bien penser que c'est la nuit, donc il y a ce reflet entre l'eau et la nuit. Et manifestement, il n'y a pas de lune, c'est juste le bateau illuminé qui en fait renvoie cette lumière sur l'eau. Et je trouve qu'elle a, en très peu de choses, elle a saisi complètement cette atmosphère comme ça de bateau la nuit, qui est traitée d'une façon où l'aquarelle reprend, c'est-à-dire c'est vraiment des... On voit à peine la coque du bateau, et voit juste la nuit et le... Voilà. Eugène avait une santé quand même assez fragile. Et donc, il est assez vraisemblable que Nice, un climat particulièrement doux, ensoleillé, etc., je pense que, en dehors du choix aussi, enfin, de son intérêt pour la lumière du midi, pour Eugène, ça devait être vraiment quelque chose de bien, l'air à la fois de la mer... Et puis quelque chose de plus paisible qu'à Paris, une vie plus calme.
Alors, le sud, c'est toujours très très important pour les impressionnistes, car c'est une lumière qui est une lumière vive, éblouissante, éclatante. Et donc, la palette s'éclaircit considérablement, et donc Berthe Morisot, elle voyagera en 1882, et en 1889, à Nice, et elle réalisera des œuvres qui finalement reflètent bien ce rapport à la lumière et cette palette qui s'éclaircit. Alors là, nous sommes devant un tableau qui représente le port de Nice et qui se divise en deux parties. Les deux premiers tiers, la partie inférieure, on voit l'eau, exclusivement l'eau, et puis la partie supérieure, au loin, eh bien, la ville de Nice qui se dessine à peine. Qu'est-ce qu'apporte Berthe Morisot dans cette œuvre? Eh bien, elle apporte le renouvellement de la peinture de paysage. Pourquoi? Parce qu'elle ne plante pas son chevalet sur le port de Nice, mais elle s'installe dans un bateau et elle peint sur l'eau.
Ce qui était assez hardi d'ailleurs pour une femme de l'époque, prendre un pointu, ces bateaux de pêcheurs niçois et monter peindre.
Très jeune, elle va s'essayer à cette peinture sur l'eau qui nous amène à des compositions qui sont extrêmement audacieuses. Si on coupe la partie supérieure de la toile, on est ici dans une symphonie de couleurs et dans une peinture qui est absolument pas figurative. Hein. On dirait de manière tout à fait inappropriée qu'elle est abstraite. Donc il y a un renouvellement du point de vue, quelque chose de beaucoup plus dynamique. Aller peindre l'eau au plus près de la nature, c'est-à-dire directement depuis un bateau.
On peut aller voir les orangers. Donc là, on a des branches d'orangers de 1889, donc le dernier séjour niçois.
Oui, c'est une petite toile qui représente, cadrée extrêmement serrée, une branche d'orangers. On voit dans la partie supérieure le feuillage, les fruits qui, j'allais dire, se révèlent à peine, et puis une végétation et un ciel d'un bleu extrêmement clair et lumineux. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ces peintures, c'est de parler de leur format. Les peintres impressionnistes et Berthe Morisot vont travailler sur des formats qu'on dit formats de chevalet, c'est-à-dire qui sont facilement transportables. Et c'est ce qu'on voit ici à travers ce petit tableau qui représente ces orangers à la Villa Ratti où elle séjournait sur les hauteurs de Nice.
Et là, on a l'arbre.
Eh bien oui, les fameux, bien sûr. L'arbre très, est quand même, franchement, très japonisant. Hein. Et aussi la façon dont c'est traité, l'eau, etc. Mais surtout, c'est ce qui m'a surtout beaucoup plu dans ce tableau, c'est ça, c'est le cadrage. Cette idée d'arbre, comme ça, qui est vraiment est en premier plan. Et ensuite, cette perspective. Donc c'est assez inhabituel. Et après, c'est, effectivement, ça... Ça s'est retrouvé chez d'autres artistes, mais à ce moment-là, non. Que ce soit les visages de Pissarro et de Renoir, etc. Aucun n'aurait songé à mettre un arbre au premier plan comme ça. Sauf si l'arbre était le sujet essentiel, mais là, c'est pas le cas. Parce que c'est au contraire l'eau derrière.
Il y a 8 expositions impressionnistes. À la 4e exposition, on voit arriver d'autres femmes comme Marie Cassatt, comme Marie Braquemont également, qui exposent là aussi. Donc c'est une femme qui expose, mais qui a aussi évidemment eu des gens qui appréciaient sa peinture, qui collectionnaient. Et en effet, il y a eu des acheteurs de Berthe Morisot, dont Durand Ruel. Donc chez elle, on retrouvait cette sorte d'avant-garde qui ne s'appelait pas ainsi, mais qui était constituée en effet de Renoir, de Degas, de Monet, de Mallarmé et de gens avec lesquels elle entretenait des conversations qui étaient d'ordre professionnel. Souvent, on parlait peinture, on parlait quelquefois technique. Renoir recommandait des modèles, par exemple, donne le tarif de ses modèles, les conseils à Berthe. Il partage des modèles parfois, mais aussi conversations purement amicales, fantaisistes, conversations sur la littérature, conversations sur la musique. Les arts se mélangent chez Berthe Morisot.
Bertrand Marchal, Henri de Régnier dit, je ne sais pas si c'est un petit peu avec condescendance, mais Henri de Régnier dit qu'en fait Mallarmé aurait reporté l'affection qu'il avait pour Édouard Manet sur sa belle-sœur Berthe Morisot.
Oui, je crois que cette interprétation n'est pas forcément la plus flatteuse pour Berthe Morisot, où elle serait en quelque sorte une remplaçante. Non, je pense qu'il a, comme le montre notamment le texte qu'il a écrit à l'occasion de l'exposition posthume de Berthe Morisot en 96, il a été très sensible non seulement à la qualité de la femme peintre, mais aussi à la personne que représentait Berthe Morisot. Que dit-il dans ce texte ? Il parle précisément de tant de clairs tableaux. Bon, donc le premier caractère de cette peinture, c'est une peinture claire. Et c'est la caractéristique de tout l'impressionnisme. Bon. Tant de clairs tableaux, irisés, exacts, prime sautier. Donc on a les trois dimensions. L'irisation, c'est la lumière. L'exactitude, c'est le rapport au réel. Et le caractère prime sautier, c'est cette espèce de spontanéité ou de non finito dont on peut parler à propos de la peinture de Berthe Morisot, surtout au fur et à mesure que sa carrière avance. Mallarmé, pour définir la peinture de Berthe Morisot, et au fond il aurait pu utiliser souvent ces mêmes formules pour définir d'autres impressionnistes, c'est ce qu'il appelle un spectacle d'enchantement moderne. Il y a deux mots qui sont essentiels, c'est le mot « enchantement ». Donc la peinture, c'est une forme de fête. Et la peinture de Berthe Morisot, c'est une fête. C'est une fête de la lumière. Autrement dit, nous ne sommes plus dans la logique romantique du rêve et de l'imaginaire. l'impressionnisme, c'est ce qui revient au réel. Et Berthe Morisot, si elle produit une fête, on peut se demander si c'est la peinture qui produit la fête ou qui révèle la fête du monde moderne, du monde contemporain. Donc il utilisera une autre formule toujours dans la même préface. Il parlera de féerie, oui, quotidienne. C'est la féerie, mais une féerie quotidienne. Voilà ce qui définit la peinture de Berthe Morisot.
Sylvie Patry, vous avez évoqué la peinture de figures en plein air. Il y a évidemment la peinture de figures d'intérieur qui est très développée chez Berthe Morisot, qui est articulée avec la notion de modernité.
Alors, chez Berthe Morisot, il y a beaucoup de peintures de scènes d'intérieur, comme chez beaucoup d'impressionnistes, hein, d'ailleurs. Mais ce qui est important, à mon avis, de voir dans ces scènes d'intérieur, qui sont parfois réduites à leur sujet, on dit, voilà, ce sont des femmes, des enfants, sont des thèmes domestiques, etc. À l'époque, et encore aujourd'hui, et puis c'était vrai pour des artistes comme Renoir, comme Monet ou pour Degas, à la fin des années 60, au début des années 1870, ce sont aussi des scènes de la vie moderne. Alors, c'est pas tant Baudelaire. Pour Baudelaire, cette peinture de la vie moderne, elle est très tournée vers les espaces, vers l'espace public, vers la rue, avec le thème du flâneur, les cafés. Berthe Morisot, ça c'est un univers auquel, en tant que femme de la grande bourgeoisie, jeune fille de la grande bourgeoisie à ce moment-là, elle n'a pas accès. Je veux dire, c'est pas du tout, elle peut pas du tout se permettre d'aller dans un café, peindre des prostituées comme Degas. Donc elle n'est pas dans cette position qui, effectivement, au XIXe siècle, est quand même masculine, du flâneur dans la ville. En tout cas, pas pour une femme de son milieu. Mais il y a un autre écrivain critique, très proche d'Edgar Degas, qui s'appelle Edmond Duranty, qui publie un texte sur la nouvelle, ce qu'il va appeler la nouvelle peinture, en 1876, et que l'on considère comme une sorte de manifeste de l'impressionnisme, en quelque sorte, même si... Le texte vient après coup, il vient 2 ans après la première exposition du groupe. Et dans ce texte, il invite à nouveau les peintres à sortir de l'atelier et il considère que cette peinture des intérieurs modernes, des intérieurs bourgeois modernes ou des intérieurs modernes tout court, fait partie de cette revivification de la peinture. Et donc, à mon sens, il faut comprendre ces intérieurs de Berthe Morisot comme partie prenante de cette volonté des peintres de représenter leur univers, le monde des contemporains, par opposition à un univers de fantaisie que l'on recrée dans l'atelier.
Dans le choix de sujet, dans le choix de thème, il y avait la vie moderne et surtout la vie moderne des femmes de la classe moyenne. Il y avait le moderne aussi dans la manière de laquelle elle les a représentées, c'est-à-dire sa facture impressionniste. Donc, c'est pas seulement dans le choix de sujet qu'on voit la modernité de Morisot, mais aussi dans la manière de laquelle elle a traité, du point de vue esthétique, ce sujet. Et finalement, il y a sa manière de représenter les femmes. Et je crois que ça, c'était essentiel. Les femmes qui ne sont pas des sujets d'anecdotes, qui ne sont pas des choses belles, mais qui sont des êtres sérieux, sobres, qui font un travail qui exige et qui demande le respect. Et finalement, ça me fait penser tout de suite à l'autoportrait que Berthe Morisot a fait en 85, je crois, où elle représentait, évidemment, c'est un autoportrait soi-même, mais comme une femme forte, une femme artiste qui était maîtrise de toutes ses ressources. Donc, il y a la mode, la modernité, le traitement, mais finalement, sa façon de comprendre la position des femmes dans ce monde, pas seulement comme des objets d'un regard masculin, mais comme des êtres sérieux et sobres qui ont une réalité à soi.
Marianne Mathieu, dans le travail sur le non-fini, l'inachevé, il y a bien sûr la peinture, mais également tous les pastels. Là, nous avons « La fillette au jersey bleu » de 1886, où le décor n'est pas fini, enfin le papier même apparaît.
D'abord, c'est une œuvre de grand format. C'est un des chefs-d'œuvre de Berthe Morisot. Alors, le modèle, c'est sa fille, c'est Julie. Elle a 6 ans et elle est représentée dans son intérieur. Alors cette œuvre, elle est brossée rapidement et vous dites à juste titre que on voit ça et là le papier. Eh bien, Berthe Morisot, qui est cette reine de l'inachevé, va considérer que le papier laissé visible fait partie intégrante de l'œuvre. Alors, que va faire Berthe Morisot ? Ici, elle va faire un pastel. Le pastel, c'est l'art, la technique, la pratique par excellence du XVIIIe siècle, et on apprécie le pastel parce que c'est une craie, et donc on révèle, je dirais, toute la beauté de la chair à travers ce côté extrêmement pulvérissant. Eh bien, Berthe Morisot, elle va l'utiliser de manière différente, de manière, j'allais dire, assez classique pour représenter le visage de l'enfant, mais elle va l'utiliser comme un crayon gras et elle va brosser de manière extrêmement rapide, hein, en forme de hachure, eh bien, le portrait de cet enfant. Et donc, elle renouvelle, elle revisite l'utilisation du pastel, de cette technique, et ce qui fait de cette pièce quelque chose de tout à fait rarissime et exceptionnel.
Sur le tard, Berthe va peindre côte à côte avec sa fille, Julie, qui sera une jeune adolescente de 14-15 ans, qui apprend à peindre à côté de sa mère. Et elle peint aussi à côté d'une de ses nièces, qui s'appelle Paul, Paul Gobillard, qui est la fille de sa sœur aînée, qui peint à côté d'elle sur le même motif. Donc c'est cette espèce de communauté de femmes. C'est un univers extraordinairement féminin, c'est-à-dire un univers de femmes à la maison, un univers de femmes à la toilette, de femmes qui s'occupent des enfants, mais c'est en même temps un univers rebelle, parce que cet univers, il est peint par la main d'une femme qui n'a pas accepté la soumission à un destin qui aurait dû peut-être être le sien, ce destin bourgeois où la femme est quand même soumise, un peu écrasée, un peu étouffée dans le foyer. Non, elle a toujours maintenu le cap, elle a toujours peint, elle a toujours exprimer cette vocation, cette passion de peindre.
À Berthe Morisot, Valvin, mercredi 6 septembre 1893. Ma chère amie, tout a changé jusqu'au vent depuis votre départ. Le canot dort sous des menaces de pluie. Je travaille sans trop savoir à quoi et inscris ce mot en marge. Vous nous avez apporté une fête. Sentir une promenade chère dans le voisinage, et j'en apprécie à sa valeur le charme passé. Votre présence ici paraissait si naturelle, vos soucis affrontés avec bravoure. Et le doigt de Julie, comment tout cela va-t-il ? Geneviève se rappelle une Julie loquace et particulière à la forêt. Moi, je lui ai trouvé la mine rose et remplie au départ. La petite voile me suffit peinte, et je regarde. Merci du mot, à vous deux. Stéphane Mallarmé. Alors, cette lettre, évidemment, évoque précisément l'étude que Berthe Morisot a faite de la Iole, la célèbre Iole de Mallarmé. Et c'est la vision de cette étude qui permet à Mallarmé de se consoler, de ne pas pouvoir utiliser, faute de vent et à cause du mauvais temps, sa Iole sur la Seine.
Et le Julie, enfin, a entraîné la pneumonie de Berthe. Enfin, tout ça. À l'époque, évidemment, ça ne se soignait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Ce qui fait que s'est beaucoup occupé de soigner Julie, et c'est comme ça qu'elle a attrapé cette fameuse pneumonie qui l'a emportée.
Berthe Morisot, un atelier à soi, un documentaire de Laetitia Leguet réalisé par Nathalie Salle, avec Dominique Bonnat, Bertrand Marchal, Marianne Mathieu, Philippe Nord, Sylvie Patry, Jean-Marie Roire, Yves Roire. Extrait du film Berthe Morisot, de Caroline Champetier. Prise de son, Frédéric Quéroux. Mixage, Cédric Châtelus. Attaché de production, Pascaline Bonnet. Coordination, Christine Bernard.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture, une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Thibaut Terragnan. Et dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.